Silcast présente Plongée profonde, thème du jour géopolitique, avec Alex et Sacha. Bonne écoute.
On est mi-juillet, ça fait maintenant plus de 4 mois que Trump et Israël ont lancé les frappes du 28 février contre l'Iran. Et il y a un truc qu'on n'a pas encore vraiment décortiqué ensemble, le silence. Le silence narratif de Trump sur cette guerre. La Vie des idées publie un long essai là-dessus, et le monde diplomatique enchaîne avec un texte de Zevin sur ce que ça dit du basculement stratégique américain. Je propose qu'on prenne le temps de creuser ces deux angles ensemble aujourd'hui.
C'est un angle essentiel, parce qu'on a beaucoup parlé du militaire, du détroit, du prix du baril, mais assez peu de la dimension idéologique de cette guerre. Et l'article de La Vie des idées met le doigt sur quelque chose de vraiment neuf. Depuis le Vietnam, il y avait une règle non écrite dans la politique étrangère américaine, ce que Marvin Kalb appelait la « press politics ». Toute guerre doit être vendue à l'opinion. Bush père avec le boucher de Bagdad, Clinton avec l'humanitaire au Kosovo, Bush fils avec l'axe du mal et les armes de destruction massive.
Le mensonge du siècle, comme l'aurait l'article.
Voilà. Et là, ce qui est frappant, c'est que Trump s'en affranchit. Le 1er mars, au lendemain des premières frappes, il rentre à Washington et au lieu de justifier la guerre, il parle des statues installées dans la roseraie de la Maison-Blanche. Aucun fil narratif, pas de doctrine, pas d'ennemis construits rhétoriquement.
Et il refuse même d'appeler ça une guerre. L'article liste les euphémismes. Excursion, voyage, mini-war, escarmouche. C'est presque comique si ce n'était pas aussi grave. Parce qu'il y a une raison légale derrière. Ne pas avoir à demander l'autorisation du Congrès, comme l'exige la War Powers Resolution.
Exactement. Donc le refus de nommer, ce n'est pas juste du mépris ou de la désinvolture. C'est un contournement institutionnel. Tu ne demandes pas d'autorisation pour une excursion. Et ça pose une question démocratique fondamentale. Jusqu'où un exécutif peut-il conduire une guerre sans en rendre compte, ni au Congrès, ni à la presse, ni même aux citoyens?
L'article s'intéresse à qui, dans ce vide, prend le relais du débat. Et c'est là que ça devient intéressant. Ce sont les Late Nights, The Daily Show avec Jon Stewart, et surtout The Late Show avec Colbert, jusqu'à son arrêt le 21 mai dernier. Ils recyclent le langage critique qu'ils avaient forgé contre la guerre en Irak en 2003.
Ce qui est révélateur, c'est justement l'arrêt du Late Show en mai. On peut y voir un hasard de programmation CBS, mais quand tu regardes la séquence, le principal espace de critique quotidienne de la guerre disparaît 2 mois et demi après le début du conflit. Colbert reprenait la posture qu'il avait développée contre Bush fils, pointer l'absence de justification, ridiculiser les euphémismes, exiger un vocabulaire. Et là, il n'y a même plus de récit officiel à parodier, il n'y a que le vide.
Ce qui me frappe, c'est que la satire devient plus difficile quand l'adversaire refuse de produire du discours. Tu peux moquer les armes de destruction massive parce qu'il y a une thèse à démolir. Comment tu moques quelqu'un qui parle de ses statues au lieu de sa guerre?
Tu documentes l'évitement, ce que faisaient Stewart et Colbert. Mais ça a une portée politique moindre, parce que tu ne peux pas retourner un argument que ton adversaire n'a jamais formulé. Et ça nous amène à l'article de Zevin dans Le Monde diplomatique, qui je trouve complète parfaitement.
Vas-y, résume-nous l'angle.
Zevin part du 14 juin, l'anniversaire des 80 ans de Trump, transformé en combat de MMA sur la pelouse de la Maison-Blanche, avec en toile de fond l'inflation dopée par la guerre au Proche-Orient et une popularité présidentielle historiquement basse. Il utilise la formule « ère de fin de l'Empire romain », ce qui est un peu facile, mais assez juste. Et sa thèse, c'est que les États-Unis passent de la domination militaire à la défaite stratégique. Pas défaite militaire, hein, défaite stratégique.
C'est-à-dire
que tu peux gagner militairement, avoir les meilleurs porte-avions, les meilleurs missiles, et perdre la partie qui compte, la capacité à structurer l'ordre international selon tes valeurs. Zevin rappelle que Trump, en 2015, se rangeait du côté de l'exceptionnalisme isolationniste. Il critiquait l'invasion de l'Irak, voulait renouer avec la Russie, questionnait l'OTAN. Et paradoxalement, celui qui devait rompre avec l'interventionnisme se retrouve à mener une guerre au Moyen-Orient, sans même prendre la peine de la justifier.
Ce qui est fascinant, c'est que les deux dimensions se recoupent. Ne plus justifier la guerre, ce n'est pas juste un choix rhétorique. C'est le symptôme que les États-Unis ne se pensent plus comme un projet universaliste. Bush fils, aussi menteur soit-il, avait besoin de raconter une histoire de démocratie, de libération. Trump n'en a plus besoin, parce que le récit d'un ordre mondial américain n'a plus d'acheteur, ni à l'intérieur, ni à l'extérieur.
Et là, on touche à quelque chose que je trouve central politiquement. Pendant des décennies, la gauche critique, et je m'y range, a passé son temps à déconstruire l'hypocrisie du discours humanitaire des interventions américaines. À montrer que libérer les Irakiens ou protéger les Kosovars, c'était un habillage pour des intérêts pétroliers, géostratégiques, impérialistes. Et Trump, d'une certaine manière, nous donne raison en supprimant l'habillage. Mais ce n'est pas une victoire, c'est un piège.
Explique.
Parce que l'hypocrisie, aussi cynique soit-elle, contenait quand même une contrainte. Bush fils devait prétendre avoir des armes de destruction massive. Et quand le mensonge s'est effondré, ça a produit une crise politique majeure, ça a discrédité durablement l'interventionnisme, ça a alimenté un mouvement anti-guerre. Le discours de justification, même mensonger, laisse une prise. Il crée un contrat implicite. Je te dis pourquoi je fais la guerre, et tu peux me dire plus responsable si mes raisons s'effondrent. Supprimer le discours, c'est supprimer le contrat.
Donc l'absence de justification, c'est une forme d'autoritarisme plus pur, pas besoin de convaincre, juste faire, et compter sur le fait que l'opinion s'habituera ou sera saturée par autre chose.
Voilà. Et c'est là que la disparition des late night comme espace critique quotidien devient signifiante. Parce que dans un système où l'exécutif n'explique plus rien, les espaces d'exigence de justification deviennent politiquement cruciaux. Zevin note d'ailleurs, sans le développer, que la majorité républicaine est menacée à la mi-mandat. Ça veut dire que le silence narratif n'a pas fonctionné pour tout le monde. Il y a une partie de l'électorat qui perçoit qu'il y a une guerre, qui en subit les conséquences économiques, inflation, prix de l'essence, et qui ne se satisfait pas de l'évitement.
J'ai une question qui me tarabuste. Est-ce que ce silence de Trump est stratégique ou est-ce qu'il est simplement le reflet de sa personnalité? Parce que on peut construire toute une théorie de l'affranchissement de la press politics, mais peut-être que Trump ne justifie pas parce qu'il ne sait pas pourquoi il l'a fait lui-même ou parce qu'il change d'avis chaque semaine.
Question légitime, mais je pense que c'est un faux dilemme. Que ce soit stratégique ou personnel, l'effet est le même, et surtout, la structure institutionnelle qui l'entoure, elle, en tire des conséquences stratégiques. L'administration exploite le silence présidentiel pour ne pas soumettre la guerre au Congrès. Les militaires opèrent sans cadre politique clair. Les alliés, on l'a vu à Ankara au sommet de l'OTAN, dont parle Iris cette semaine, s'adaptent à l'imprévisibilité. Ce n'est pas parce que le désordre vient d'un tempérament qu'il ne produit pas des effets systémiques.
Sur Ankara, justement, l'article d'Iris est cruel. Ruth préfère la soumission à la fermeté, les Européens multiplient les concessions et les achats d'armes américaines pour apaiser Trump. On est très loin d'une alliance de valeurs, on est dans une logique de tribu.
Et ça, c'est cohérent avec la thèse de Zevin sur la défaite stratégique. Quand tu n'as plus besoin de justifier tes guerres, tu n'as plus non plus besoin de justifier tes alliances. Elles deviennent transactionnelles. L'OTAN survit, mais vidée de son contenu politique. Elle devient un club de clients militaires plutôt qu'une communauté stratégique.
Sur ce qu'on surveille pour la suite, moi je vais regarder deux choses. D'abord, les midterms de novembre. Si les républicains perdent une des deux chambres, la question de la War Powers Resolution va revenir sur la table. Il pourrait y avoir une tentative parlementaire de forcer la qualification juridique de la guerre en Iran. Et deuxièmement, la recomposition médiatique post-Colbert. Est-ce qu'un nouvel espace critique quotidien va émerger? Ou est-ce que l'espace de la critique va se fragmenter sur des podcasts, des chaînes YouTube, sans jamais retrouver l'audience de masse qu'avaient les late nights?
Moi, je surveille la dimension économique. Zevin évoque l'inflation dopée par la guerre. Tant que le coût de la guerre est diffus, le silence narratif peut tenir. Le jour où il devient tangible, coupure d'approvisionnement, récession, quelque chose de brutal, l'absence de récit officiel deviendra un handicap politique majeur pour Trump, parce qu'il n'aura même pas de mythe à opposer au réel. Et je surveille aussi ce que devient l'opposition démocrate sur ce dossier. Pour l'instant, elle est étrangement silencieuse, comme si elle craignait d'apparaître comme pro-Iran plus qu'elle ne veut apparaître anti-guerre. C'est un positionnement suicidaire à long terme.
Sur ce constat un peu sombre, je pense qu'on a fait le tour de ces deux textes. Ils dialoguent bien ensemble, l'un sur la forme rhétorique, l'autre sur la structure stratégique. Et les deux pointent la même chose. Ce n'est pas seulement une guerre de plus, c'est une guerre qui change ce que veut dire faire la guerre pour les États-Unis.
Une mutation qui mérite qu'on continue à y revenir.